Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de Cinécure. Tous les premiers mercredis du mois, je vous présente une sélection de 4 films avec pour seule condition leur disponibilité en VOD ou SVOD. Pour le mois de juillet, je voulais marquer un peu le coup et vous proposer des films qui sont en rapport avec l'été. Et je peux vous certifier que ça a été très dur, beaucoup plus dur que je ne m'y attendais. De cette expérience, je retiens qu'il n'y a en définitive pas tellement de bons films que ça sur l'été, sur ce qu'ils représentent dans notre culture. Après avoir cherché et après avoir vu des films parfois ennuyeux ou même carrément mauvais, j'ai choisi comme chaque mois 4 films. Ils sont, je trouve, représentatifs de ce que l'été est pour moi, et c'est comme souvent, vous le verrez, un ressenti personnel qui a guidé ma sélection. Pour moi, l'été, que vous choisissiez de le passer à la plage, à la ville ou à la montagne, ou bien partout ailleurs, est une période étrange où le temps semble se changer, se tordre, où les coïncidences s'accumulent et où les opportunités sont provoquées. C'est une période qui, bien que très encadrée temporellement, revient tous les ans et se présente à chaque fois sous un aspect différent. C'est un espace où tout change et où pourtant tout est pareil. J'espère que ma sélection vous plaira et je vous souhaite à tous un excellent été. Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, 1h28. Monsieur Hulot, un original un peu tête en l'air, part en vacances sur la côte bretonne. Sur place, il va cohabiter avec tous les clients de l'hôtel de la plage, qui semble bien ennuyeux. À côté d'eux, Hulot et ses hulotteries dénotent et fâchent.
Oh, quel ravissant spectacle, n'est-ce pas, cher monsieur? Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? C'est Saint-Nazaire? Vous voyez au loin, là-bas, de ce côté,
là-bas.
Pour moi, les vacances au bord de la mer sont toujours très agréables et reposantes. Malheureusement, il y a trop de vent. On n'est jamais bien coiffé, n'est-ce pas?
Si vous me suivez sur Instagram, @charleddy, je vous ai déjà parlé de ce film, puisque j'en ai fait un épisode de 3 raisons de voir. Je l'ai découvert sur Netflix à l'occasion de ma recherche pour cet épisode spécialité, et c'était mon deuxième contact avec Jacques Tati. La première fois, j'avais vu Mon Oncle et je m'étais endormi devant. Mais je n'ai pas abandonné, puisque comme vous le voyez, je vous parle aujourd'hui des vacances de Monsieur Hulot. D'une part parce que je ne trouvais pas grand-chose à me mettre sous la dent lors de mes recherches des films d'été, donc il a bien fallu que je regarde celui-ci, mais surtout aussi, je dois l'avouer, parce que m'être endormi devant Mon Oncle m'a un peu mis en colère et que j'avais envie de m'y remettre et de dire quand même, Jacques Tati, c'est un mythe, c'est un grand monsieur du cinéma français, comment est-ce que j'ai pu ne pas accrocher à ce point-là? Parfois, c'est bien d'insister. Je dis ça parce que je n'ai absolument pas eu de regret d'avoir regardé Les Vacances de Monsieur Hulot. Ça n'en fait pas pour autant un film facile à voir. Tourné en 1953... on dirait quasiment du cinéma muet, ce qui a été reproché d'ailleurs à Jacques Tati, puisque beaucoup des dialogues ne sont même pas audibles, sauf qu'il s'agit d'un cinéma qui en réalité joue sur les situations. C'est une comédie de situation, ni plus ni moins. Donc on a des personnages qui répondent à certains clichés, certaines images qu'on se fait d'eux, et qui agissent en conséquence. Mais au-delà de l'aspect comique qui n'a rien à envier au film de Chaplin ou au film de Buster Keaton, Les Vacances de Monsieur Hulot est intéressant aussi parce que c'est une observation nationale de nos habitudes en tant que Français. Donc là, clairement, il s'agit d'observer les Français quand ils partent en vacances, de parler des congés payés, de parler de cette évolution sociale-là, et aussi de traiter le sujet du monde des adultes par rapport au monde des enfants. C'est une observation de Tati sur l'ennui que peut être adulte, le sérieux qui s'y rattache et à quel point ce sérieux-là est en réalité ridicule. Monsieur Hulot est un personnage qui est resté un enfant, clairement, qui n'est pas adapté au monde adulte dans lequel il se trouve. Et Les Vacances de Monsieur Hulot parlent de ce personnage-là, donc Monsieur Hulot, qui part en vacances. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de femme à séduire, ou d'homme d'ailleurs à séduire non plus. Il n'y a pas de planète à sauver, il n'y a pas de situation de laquelle s'extirper. Simplement, une observation pertinente, accrue, de nos habitudes à nous, peuple français, quand on part en vacances. Et c'est déjà extraordinaire, voilà. Il faut rentrer dedans, c'est un film en noir et blanc, c'est un film particulier avec, je le répète, beaucoup de comiques de situation qui frôlent parfois la farce, mais c'est un film que moi je trouve en tout cas très doux, très agréable à voir. C'est un film qui est riche aussi de situations aussi absurdes les unes que les autres, mais pourtant finement observées. Et puis... Accessoirement, c'est la naissance de Monsieur Hulot, donc le personnage qu'a créé Jacques Tati, et c'est une influence majeure pour les comiques à venir, notamment sur le personnage de Rowan Atkinson de Mr Bean. Je pense que c'est important de le voir. Le film est disponible sur Netflix. Cette même année 1953, sortait au cinéma Le Salaire de la Peur de Henri-Georges Clouzot, Covadis de Mervyn LeRoy et Moulin Rouge de John Huston. Way Way Back de Nat Faxon et Jim Rash, 1h43. Duncan, un adolescent mal dans sa peau et replié sur lui-même, part en vacances avec sa mère, une femme divorcée et en recherche de reconnaissance, le petit ami de sa mère, Trent, un dragueur lourd et méchant, et la fille de Trent. Alors qu'il passe un été pourri, il explore la station balnéaire et découvre un parc aquatique où il se lie d'amitié avec Owen, le directeur du parc. Celui-ci l'écoute et lui offre même un job qui va lui permettre de s'épanouir, mais tous les autres adultes semblent lui tourner le dos. Duncan n'a pas d'autre choix que de devenir l'adulte qu'il veut être pour réussir à exister.
Now, I know I keep asking you, but when are we getting new employee t-shirts?
2 years from yesterday.
No, all joking aside, and this makes me self-conscious about my body. It's not a place that I want to be.
Disappoint me, kid. You're late. Plan on making a habit of this?
What?
You're fired!
But I just...
You make a valid point. Welcome back. It's benefits.
You waste an exorbitant amount of time. You know that?
Suit up. You don't look too pumped. Come on, let's get pumped. This is the place where dreams are made or destroyed. Depends on how you feel about working at a water park.
We have a situation over at Harpoon Lagoon.
Is it a homicide?
Yeah, it's a homicide.
I knew this day would come.
Bon, quand j'ai commencé ma recherche sur les films d'été, les films de plage, etc., etc., j'ai toujours eu The Way Way Back dans un coin de ma tête. Et puis je me suis dit, ouais, bon, peut-être que c'est un peu trop cliché de mettre ça. C'était tout à fait le genre de film que je recherchais, mais je me disais, je devrais pouvoir en trouver d'autres. Puis j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé d'autres films. En tout cas, aucun qui me conviennent autant que celui-ci, qui était toujours dans un espace de ma tête. Et au final, j'ai décidé, il n'y en aura pas d'autres aussi bien que celui-là, parce que c'est celui auquel je pense depuis le début, donc c'est celui que je vais mettre. Je ne regrette pas du tout de vous le proposer aujourd'hui, de l'avoir sélectionné, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai revu pour le podcast et que j'ai adoré aussi. D'abord, évidemment, il y a son cast qui est exceptionnel, puisqu'on retrouve Toni Collette, Allison Janney, sous-estimée à mon avis, Maya Rudolph, évidemment, du SNL, Steve Carell en parfait connard, et bien entendu Sam Rockwell. Qui n'aime pas Sam Rockwell? Soit vous le connaissez et je pense que vous l'aimez, soit vous ne le connaissez pas, découvrez-le à travers ce film, pourquoi pas, mais découvrez-le le plus vite possible. En fait, on est face à un film qui a une structure et une intrigue, je dirais, classique, voire même rassurante. C'est très bien comme ça, c'est tout à fait le genre de film que je cherchais. C'est un film d'avènement. Un film où le personnage principal va se découvrir, va explorer et en réalité se révéler. Et c'est ça que j'aime, moi, dans l'été. C'est ce que j'ai vécu, en tout cas, quand j'avais son âge. Je pense que c'est ce que des millions de gens ont vécu. En tout cas, je l'espère, parce que c'était une chouette aventure. C'est un moment où on va se mesurer au monde, où on n'est pas dans la routine du lycée. On est dans un événement... Enfin, si on a suffisamment de chance, si on est suffisamment privilégié, comme je l'étais, on se retrouve dans un entourage ou un environnement qui est différent de notre environnement quotidien. Et on fréquente des gens qui sont différents de ceux qu'on fréquente tous les jours, donc on peut aussi se permettre d'être quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et si en plus on a la chance, comme Duncan dans le film, de tomber sur quelqu'un qui aide à cette transformation-là, qui nous laisse l'espace et qui voire même nous encourage à devenir ce qu'on a envie d'être en réalité, ce genre d'aventure et ce genre d'histoire va vous parler, parce que c'est une révélation, en fait, tout simplement. Duncan, il est en train de se transformer, de passer ce moment un peu compliqué de l'âge adolescent à l'âge adulte, et il y arrive parfaitement bien. Au final, c'est ce que l'histoire va raconter. Alors évidemment, il y a des rebondissements, je ne vais pas vous les révéler, mais je n'ai pas non plus envie de vous mentir en vous disant « Oh là là, il va se passer des trucs fantastiques ». C'est classique, c'est rassurant. Pour moi, c'est un très très bon film d'été, et en plus de ça, il y a cette petite touche film indépendant américain qu'on aime bien, avec de la musique de groupe pop indépendant... Voilà, c'est très chouette, c'est très bien. Une fois de plus, le cast est impeccable. Et puis bon, en plus, dans ce cast, on retrouve les deux réalisateurs qui jouent chacun un petit rôle. Il y en a un qui est, je trouve, savoureux. Je vous en dis pas plus, découvrez-le. Il est disponible sur Apple et YouTube à la location pour 3,99€. Cette même année 2013 sont sortis en France La Reine des Neiges du studio Disney, Django Unchained de Quentin Tarantino et 9 mois ferme d'Albert Dupontel. Plein soleil de René Clément, 1h58. Tom Ripley, un jeune homme un peu perdu et plutôt docile, est en Italie avec Philippe Greenleaf, un riche héritier, infidèle et qui n'a pas l'intention de travailler, et Marge Duval, la femme de Philippe, qui bien que très amoureuse, ne se fait pas d'illusions quant à son mari. Une dynamique malsaine se met en place au sein du trio, où Tom est amené à rapiécer souvent ce couple dysfonctionnel, et c'est dans ce cadre-là qu'il va décider de s'émanciper. Avant de parler du film, je voudrais vous parler de René Clément, qui est un grand monsieur du cinéma français, qui a remporté 2 Oscars du meilleur film étranger. C'est aussi le cinéaste français le plus primé au Festival de Cannes, puisqu'il a remporté 5 récompenses entre 1946 et 1954. C'est un monsieur qui a commencé avec Jacques Tati, donc on trouve un lien avec le premier film que je vous ai proposé, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis c'est un des cinéastes les plus en vue de l'après-guerre. C'est aussi un des cinéastes qu'on a le plus oublié. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, c'est quelqu'un qui a fait des choses très importantes pour le cinéma français, qui était vraiment un cinéaste moderne, avec une réalisation toujours en avance sur son temps. On a reparlé de lui en 1966 à la sortie de Paris brûle-t-il, qui est un film sur la libération de Paris à la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui a été boudé par la critique. C'est un cinéaste qui a été en partie détruit par la Nouvelle Vague. Bon, si vous me suivez sur Instagram, j'en parle souvent de la Nouvelle Vague. Vous devez savoir que je suis pas particulièrement fan. Mais voilà, René Clément, je pense que c'est important de le situer un petit peu dans le paysage français. Renseignez-vous sur lui si vous avez l'occasion. Je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant.
Tu sais tenir un cap ?
Oui, je crois.
160 degrés sud-sud-est.
Sud-est.
Je montrerai le café.
Je n'accepterai pas le quart de ce qu'il accepte.
Mais ce qui m'amuse, c'est précisément de voir jusqu'où il ira.
Toi, tu dis des horreurs.
Ne le plains pas trop. Il ne pense qu'à l'argent.
Si tu le juges comme ça, pourquoi es-tu parti pour Rome avec lui ?
Chut.
Alors maintenant, les plus cinéastes d'entre vous, le résumé du film que j'ai donné au début, ça vous aura forcément parlé, puisque c'est le même résumé que le talentueux Mr. Ripley de Anthony Minghella, et c'est normal, puisque le talentueux Mr. Ripley d'Anthony Minghella n'est autre qu'un remake de Plein Soleil de René Clément. Je trouve d'ailleurs qu'une des meilleures façons de parler de Plein Soleil de René Clément, c'est aussi de parler du talentueux Mr. Ripley de Anthony Minghella, puisque c'est un remake à proprement parler. Anthony Minghella s'est approprié l'histoire qu'avait développée René Clément, mais qui est à la base un roman écrit par Patricia Highsmith. Et ce qui rend la comparaison particulièrement intéressante, c'est le traitement des personnages par un cinéaste puis par l'autre. Alors qu'Anthony Minghella va apporter une valeur moralisante à son film, c'est-à-dire que vraiment il va se poster en juge quelque part de ses personnages et particulièrement de son Tom Ripley qui est joué par Matt Damon. René Clément, lui, au contraire, utilise le magnétisme de Delon en 1960, qui est son personnage principal, et essaye d'emmener le spectateur avec lui. Et on se retrouve en fait dans le film de Minghella à avoir presque peur de ce personnage de Tom Ripley, alors que dans le film de René Clément, on a vraiment envie qu'il y arrive, on a vraiment envie qu'il réussisse, et on n'est pas moralisateur, à aucun moment on est dans une posture où, enfin bien sûr qu'il nous dérange, mais quelque part on aime ce type-là, et on ne peut pas s'empêcher de l'aimer, c'est ça qui est particulièrement troublant et malaisant. Je pense qu'une des explications de cette situation tient au fait que René Clément et Alain Delon avaient une relation particulière. Alain Delon a appelé René Clément à plusieurs reprises son maître. Alors il l'a dit de beaucoup de cinéastes, hein, c'est vrai, avec Melville avec qui il avait une relation aussi particulière. Mais avec René Clément, il a fait 5 films. C'est quelqu'un qui l'a toujours employé, notamment donc dans Paris brûle-t-il, puisque Delon y tient le rôle de Chaban-Delmas. Mais là, ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la séduction, quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs dans Les Félins, autre film de René Clément que je vous recommande et qui se passe aussi sur la Méditerranée. Donc si vous suivez bien, là, je suis en réalité en train de vous conseiller 3 films. Le premier, c'est évidemment Plein soleil de René Clément, puis le remake d'Anthony Minghella qui s'appelle donc Le talentueux Mr. Ripley, et Les Félins aussi de René Clément, qui sont 3 films qui se passent sur la Méditerranée. C'était pas prévu comme ça, hein. Mais en vrai, je vous les conseille tous les 3, et pourquoi pas, après tout, c'est aussi des films qui se passent en été et qui se passent dans un cadre d'été, même si Plein soleil n'est pas à proprement parler un film d'été. Il n'y a pas question de plage et de vacances, mais en attendant, c'est un film dont le cadre m'a fait penser à l'été. Moi, je suis très fan de la mer Méditerranée. Voilà, là, vous êtes servis. Tout se passe à Rome et alentour. Il y a des scènes sur un voilier sublime. Foncez, voilà, je trouve que c'est magnifique. Et si vous avez l'occasion, honnêtement, essayez de voir Plein soleil de René Clément, suivi de du talentueux Mr. Ripley de Anthony Minghella. Les deux à la suite, c'est très intéressant. Ça vous apportera aussi une exploration de ce que peut être un remake, de l'appropriation de personnages par d'abord un réalisateur, puis ensuite par un autre réalisateur, qui sont de cultures très différentes. Un petit mot sur le cast que je trouve fantastique, puisque Delon est épaulé par Maurice Ronet, qui est un acteur français que j'adore, et Marie Laforêt, qui a regretté longtemps de jouer dans ce film. Elle a dit qu'elle s'était fait un peu manipuler, qu'elle était probablement trop jeune. J'ignore en fait ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à en savoir plus, j'ai pas lu d'autre chose, j'espère que rien de désagréable pour elle. Ce qui est certain, c'est que je la trouve très très forte dedans. On a aussi une petite apparition de Romy Schneider, qui était à l'époque en couple avec Alain Delon au tout début du film. Donc voilà, ça c'est toujours des petites choses agréables qui font qu'on reconnaît des acteurs qu'on a vus ailleurs, qu'on a aimés. C'est toujours sympa de les voir, même si c'est vraiment pour quelques secondes dans le cas de Romy Schneider, et qu'elle était vraiment très 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 jeune, donc pas vraiment un rôle important. Le film est disponible sur Netflix. Cette même année 1960 sont sortis en France La Dolce Vita de Federico Fellini, Ben-Hur de William Wyler et Le Passage du Rhin d'André Cayatte. Summertime de David Lean, 1h42. Jane Hudson, une femme mûre et indépendante, a économisé toute sa vie pour partir en Europe. Après avoir visité Paris notamment, la voici qui débarque à Venise où elle cherche l'aventure, l'art et peut-être aussi quelque chose d'autre. Un soir, sur la Piazza San Marco, elle rencontre Renato. Avant de vous parler du film, je voudrais m'adresser au patron du Patreon du vaisseau Hypersensas qui produit ce podcast et que je remercie d'ailleurs ici. Si vous avez écouté le pilote qui était disponible, qui est donc le tout premier épisode que j'ai enregistré mais qui n'est jamais vraiment sorti à part donc pour les patrons du vaisseau Hypersensas, vous avez déjà entendu parler de David Lean. Je suis désolé, je risque de me répéter un petit peu. Je vous donne l'autorisation de sauter les 15 à 30 prochaines secondes. Summertime, c'est vraiment le film que j'attendais pas. Voilà, je vais être complètement honnête avec vous. Quand j'ai fait mes recherches pour les films d'été, vraiment, je me suis galéré. Je pensais vraiment pas que ce serait si compliqué que ça de trouver des films qui parlent de l'été, qui parlent donc de cette période, comme je vous l'ai dit en introduction de ce podcast, qui est si particulière pour moi, mais si particulière, je sens aussi, pour l'humanité. En tout cas, les Occidentaux, cette façon qu'on a, les plus privilégiés d'entre nous, d'aller à la plage, d'aller à la mer, de se rafraîchir. Voilà, moi, je cherchais quelque chose comme ça. Je cherchais quelque chose qui allait m'apporter cette fraîcheur-là. Et franchement, ça a été très compliqué. Alors que je m'y attendais plus du tout, je suis tombé en cherchant une énième liste de films pour voir si j'avais des films que je connaissais, dans lesquels je pouvais fouiller, etc. Je suis tombé sur ce film de David Lean. David Lean, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Un cinéaste britannique majeur qui s'est distingué par des productions de films épiques comme Le Pont de la Rivière Kwai, Docteur Zivago et Laurence d'Arabie, donc, dont j'avais déjà parlé dans ce fameux pilote. Il a commencé sa carrière chez la filiale britannique de Gaumont, puis il a gravi les échelons petit à petit, donc au début il n'est pas du tout réalisateur, hein. Et il est devenu réalisateur et il a monté sa propre maison de production avec un directeur photo du nom de Ronald Neame, ou Neamy d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se prononce, ensemble, ils ont fait quelques grands films, et puis finalement, la boîte de production n'a plus fonctionné. Il s'est brouillé avec Nîmes, et cette boîte de production disparaît finalement. Là, ce qui est intéressant, c'est que Summertime, c'est sa dernière, entre guillemets, petite production. Alors, attention, c'est une production qui est tournée quasiment exclusivement en extérieur à Venise, dans la rue. Encore une fois, vous allez rire, ça va devenir un gimmick, mais... ça n'est pas quelque chose que la Nouvelle Vague a inventé, puisque David Lean le faisait déjà en 1954 lors du tournage de Summertime. Quelques studios ont été aussi utilisés, des studios italiens, donc tout a été tourné sur place. Et c'est intéressant parce qu'on y retrouve déjà toute la patte de réalisateur de David Lean. Tout est en place, en fait, pour ces films épiques dont je vous ai parlé, puisque le prochain film qu'il fera après, c'est Le Pont de la Rivière Kwai. Donc là, on entre dans sa phase épique, dans sa phase vraiment où les personnages sont plongés dans des paysages incroyables, ou dans des aventures qui les dépassent complètement. Là, au contraire, c'est un film qui est plutôt intimiste, qui est à hauteur d'homme, je dirais, plus exactement à hauteur de femme, puisqu'il s'agit d'une femme, c'est le personnage principal, qui est une femme indépendante. Et on retrouve tout ce qui va faire ensuite les films de David Lean. Donc, son traitement de la couleur, sa réalisation, son traitement de la photo, bref, vraiment tout ce qui va faire sa patte de la réalisation, tout est déjà présent. Son cadrage, tout. Vous allez retrouver des choses si vous avez déjà vu Lawrence d'Arabie ou même Ryan's Daughter ou n'importe quel autre de ses grands films, même Le Pont de la Rivière Kwai, tout est déjà là. Sauf que, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que justement, ça n'est pas un film épique, c'est un film intimiste, comme je vous ai dit, c'est un film qui traite d'une femme, c'est un film qui traite d'une femme indépendante, et pour jouer cette femme, particulièrement intéressant, il a choisi Katharine Hepburn.
This is Venice we're coming into, isn't it?
Yes, we'll be there in about 2 minutes now. This is the lagoon.
Oh, boy. Gotta get a shot of this. Oh, golly. Fifth one of these I've used already. Haven't even got there yet. Oh, thanks a lot.
Is this your first visit to Venice?
Yes. Is it yours?
No, I've been here several times.
Several times? You have?
Yes. I hope you're going to like it.
Like it? I've got to. I've come such a long way. I've saved up such a long time for this trip. Do you think I maybe won't like it?
I'm sure you will.
Katharine Hepburn, c'est une des plus grandes actrices que Hollywood nous ait donné, et c'est justement à l'image du personnage qu'elle joue, une femme extrêmement indépendante qui s'est presque, je dirais, battue contre les studios, qui a mené une carrière au théâtre quand le cinéma lui a tourné le dos, qui est revenue au cinéma. Enfin, c'est une personnalité vraiment passionnante du monde de Hollywood. Rien que pour ça, je trouve, le film vaut vraiment le détour. On rajoute à ça du Technicolor, je vous en ai déjà parlé. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point le Technicolor m'obsède quand il est bien utilisé. C'est le cas dans ce film. Et en plus de ça, le tout se passe à Venise, dans un Venise des années 50, donc un Venise où le tourisme de masse n'est pas encore arrivé, donc à Venise où il y a encore de la vie, où des gens vivent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous avez eu la chance, l'opportunité d'y aller, vous savez que Venise est une ville aujourd'hui qui est plus ou moins une coquille vide. Là, ça n'est pas le cas. Donc on a l'opportunité de voir cette ville merveilleuse telle qu'elle était dans les années 50, et en plus habitée par Katharine Hepburn. En face de Hepburn, il a pris Rossano Brazzani, un acteur italien que je ne connaissais pas du tout, mais qui est très très bien. Et pour rajouter, j'ai envie de dire, cerise sur le gâteau, cette histoire d'amour qui va se développer entre ces deux personnages va à l'inverse de ce qu'on est habitué à voir encore aujourd'hui à Hollywood. On a une femme qui est plus âgée que l'homme à l'écran. Déjà, on a une femme âgée, déjà. Et en plus de ça, elle est plus âgée que son love interest. Donc elle a 8 ans, Katharine Hepburn, elle a 8 ans de plus que Rossano Brazzani, ce qui en fait déjà, pour moi, rien que ça rend le film très très intéressant. Au-delà de tout ce que je viens de vous dire, il y a aussi la façon que David Lean a de capter ce qu'est l'été. Et c'est pour ça que le film a retenu mon attention. C'est un moment éphémère, comme je vous disais en introduction du podcast, mais qui revient tous les ans, une occasion de se découvrir, de se connaître. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il transpose ce que généralement on associe à l'adolescence, un petit peu comme dans The Way Way Back, dont je vous ai parlé. Là, il le transpose à un âge chez un personnage qu'on n'est pas habitué, où on ne s'attendrait pas à ça, si vous voulez. Voilà. Et là, c'est, pour moi, c'est une réussite. Voilà, tout simplement. Tout ça, ça fait que le film est magnifique. Petit bémol, qui n'a rien à voir avec le film. Enfin, si, mais on va dire pas avec la production audiovisuelle, ce film-là est le film qui a rendu Venise célèbre, qui a fait que Venise est devenue une destination de premier choix pour les touristes. Donc bon, quelque part, malheureusement, ce film a transformé Venise à jamais. Et petit croustifet, vous savez que je les aime particulièrement, la scène où Katharine Hepburn tombe à l'eau, puisqu'il y a une scène où elle tombe dans un canal, sachez que c'est bien elle qui tombe, et que de cette chute, elle a porté les séquelles toute sa vie, puisqu'elle a chopé une infection à l'œil qui ne l'a plus jamais quittée. Voilà. Le film est disponible en streaming sur Filmo TV ou Canal+, et cette même année 1955 sortait en France À l'Est d'Éden d'Elia Kazan, Pain, amour et jalousie de Luigi Comencini et Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à partager, à recommander, en mettant par exemple 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est très important pour le référencement. Puis c'est toujours plus sympa d'être plus nombreux à échanger sur le cinéma. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord du vaisseau Hypersensas, où un chat est dédié à l'émission Cinécure. Et vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions du vaisseau, que je vous encourage d'ailleurs à écouter. Quant à moi, je suis présent sur Instagram, @charledi. J'y parle essentiellement de cinéma et mes DM sont ouverts pour vos recommandations et vos retours sur le podcast notamment. On se retrouve le mois prochain pour un épisode un peu particulier. D'ici là, bon visionnage à tous et excellent été. À très bientôt.